C'est avec une grande joie que nous sommes rassemblés ce soir dans cette cathédrale Sainte-Marie de Bayonne pour rendre grâce pour la béatification de Jean-Paul II que nous avons tous connu et qui nous a accompagnés pendant de nombreuses années de notre vie. Si pour ma part, je suis un évêque de la génération Benoît XVI, je n'oublie pas que comme séminariste, et comme prêtre, je suis de la génération Jean-Paul II, que j'ai eu comme vous sans doute bien des occasions de rencontrer, que ce soit dans des grands rassemblements, les JMJ en particulier, mais aussi à travers des rencontres plus personnelles, déjà comme séminariste. Et l'une des dernières fois, ce fut en janvier 2004, où j'ai eu la grâce de concélébrer sa messe dans sa chapelle privée, alors qu'il était bien sûr déjà très affaibli. Il me plaît de souligner ce soir le caractère un peu exceptionnel de cette béatification, non seulement parce qu'elle a été rapide, 6 ans et 1 mois après sa mort, le 2 avril 2005, qui est encore dans toutes les mémoires, bien sûr, mais aussi parce que c'est le pape Benoît XVI, son successeur immédiat, qui a eu la grâce de béatifier celui qu'il appelle son bien-aimé prédécesseur. J'imagine en effet l'émotion, contenue sans doute parce que Benoît XVI n'a pas une personnalité aussi démonstrative que Jean-Paul II, mais l'émotion de Benoît XVI en proclamant dimanche dernier, sur la place Saint-Pierre, son prédécesseur, bienheureux. Celui dont il a été le collaborateur étroit pendant plus de 23 ans du pontificat de Jean-Paul II, qui fut un ami véritable, dont il fut le confident des grandes décisions de la vie de l'Église de ces dernières décennies, en particulier au tournant du troisième millénaire dans lequel le cardinal Wyszyński, primat de Pologne, avait prédit prophétiquement que son compatriote Jean-Paul II ferait entrer l'Église, et nous y sommes. Peut-être pour souligner l'unité particulière qu'il y a entre le pontificat de Jean-Paul II et le pontificat de Benoît XVI, tout le monde s'accorde pour dire que, d'une certaine manière, le cardinal Ratzinger était le successeur désigné, mystérieusement, selon des visées qui ne peuvent être que celles de la providence divine, de Jean-Paul II. Benoît XVI, qui, avec beaucoup d'émotion, en effet, a béatifié le pape Jean-Paul II. C'est vrai qu'il y a une petite phrase qui me revient en mémoire et qui a été dite récemment par le cardinal Torrent, qui fut lui-même un collaborateur étroit de Jean-Paul II pour avoir été pendant plusieurs années son ministre des Affaires étrangères, qui connaît bien le cardinal Ratzinger, dont il est encore le collaborateur aujourd'hui, et qui disait « Le pape Jean-Paul II a rendu à l'Église sa visibilité, et le pape Benoît XVI lui rend son intériorité. » Comment mieux dire la complémentarité, l'unité entre ces deux hommes, choisis par la Providence pour guider l'Église comme successeur de Pierre. Entre ces dons pontificats que d'aucuns tentent d'opposer, nous laisserons cela, n'est-ce pas, aux journalistes. Mais l'unité profonde entre Jean-Paul II qui a rendu à l'Église sa visibilité et Benoît XVI qui lui rend son intériorité. Si en Jésus, le Christ, Dieu s'est rendu visible à nos yeux, à travers une humanité dont les contours nous ont été rapportés de manière si précise du point de vue de l'histoire par les apôtres et les évangélistes. Nous pouvons dire qu'en l'Église, qui est le corps du Christ, c'est Jésus qui se rend visible au monde, l'Église qui est appelée à montrer le Christ, à faire voir le Christ. Cette visibilité qui ne peut venir, bien sûr, que d'une expérience intime du Christ. Comme disait le pape Benoît XVI encore, l'Église qui est appelée à être transparente de Jésus-Christ. C'est cela la sainteté de l'Église, cette visibilité du Christ à travers elle. Comme disait cet enfant à qui l'on posait la question « Qu'est-ce qu'un saint ?» Il répondait « Un saint, c'est un vitrail. » C'est magnifique, un vitrail qui laisse passer la lumière pour qu'on voit les couleurs chatoyantes. Une image du Christ qui est rendue visible par la transparence des saints, qui est la transparence de l'Église qui est son corps. Jean-Paul II a rendu à l'Église sa visibilité parce qu'à travers lui, tous ses gestes, toutes ses paroles, toutes ses décisions transparaissaient le Christ. Dans son homélie, très belle, très concise comme d'habitude, très profonde et lumineuse, le pape Benoît XVI, au terme de son homélie pour la béatification de Jean-Paul II, soulignait deux traits saillants de son expérience personnelle de Jean-Paul II, ayant été son collaborateur encore une fois pendant plus de 23 ans. Il dit d'abord, c'est l'exemple de sa prière qui m'a toujours frappé et édifié, dit-il. Il s'immergeait dans la rencontre avec Dieu, même au milieu des multiples occupations de son ministère. Et j'ajouterai même au milieu des plus grandes foules, il était tout imprégné de cette présence du Christ, lui qui vivait toujours intérieurement en présence du Christ. Et le deuxième trait saillant, disait-il, le témoignage de sa souffrance. Dieu qui l'a dépouillé petit à petit de tout, et je pourrais ajouter en particulier de cette prestance physique avec laquelle il s'est présenté au monde et qui de fait l'a aidé de manière charismatique à rendre l'Église visible dans le monde. Le Seigneur l'a dépouillé de tout cela, petit à petit, progressivement. Et comme dit Benoît XVI, il n'en est pas moins demeuré le rocher que le Seigneur a voulu par sa foi, un géant de la foi. Dit-il encore dans son homélie. Mais à cause de cette union intime avec le Christ, il a continué à porter le message au monde d'une manière encore plus éloquente, précisément au moment où ses forces physiques l'avaient abandonné. Un saint, c'est quelqu'un qui est transparent du Christ, avec lequel il vit intérieurement, intimement, tellement configuré au Christ qu'il est configuré au Christ dans le mystère de sa passion, de sa mort, pour rendre toujours plus éloquent le message de l'Évangile. Chers frères et sœurs, pour nous, c'est une grande leçon. Pour la vie de l'Église aujourd'hui en particulier, pour continuer à la suite de Jean-Paul II, avec Benoît XVI, le voyage intérieur de la sainteté, le voyage intérieur de l'Église. Le Christ a été vraiment au centre du pontificat de Jean-Paul II, au centre de sa vie. Cette expérience intérieure du Christ vivant, ressuscité, nous nous souvenons bien sûr du « n'ayez pas peur », qu'il ne s'agirait pas de récupérer de manière sociologique, politique, comme quelquefois on le fait aujourd'hui. « N'ayez pas peur », ajoute-t-il, ouvrez, ouvrez toutes grandes vos portes au Christ. Ouvrez toutes grandes les portes de votre cœur au Christ, pour que les systèmes politiques, les systèmes économiques puissent s'ouvrir au Christ, qui est le chemin de l'homme. Si l'homme est la route de l'Église, comme il l'a dit dans sa première encyclique programme sur le Christ, rédempteur de l'homme, il ajoute que le Christ et le chemin de l'homme. Ouvrez toutes grandes vos portes au Christ. Au fur et à mesure que ce pontificat avançait, il invitait les fidèles de l'Église à recentrer leur vie sur le Christ. Je n'en veux pour preuve que cette lettre, qui est comme le testament de Jean-Paul II, « Novo millennio ineunte », au début du nouveau millénaire, signée le 6 janvier 2001, au terme du grand jubilé de l'incarnation, du grand jubilé de l'an 2000, les deux parties centrales de cette lettre sont intitulées « Un visage à contempler » et « Repartir du Christ ». L'Église ne retrouvera sa cohésion et sa vitalité partout où elle semble essoufflée, partout où elle semble dispersée, non pas en s'adaptant au monde, ni par des réformes de structure parfaitement inutiles, mais dans la mesure où elle se recentrera sur le Christ, dans la mesure où chacune et chacun d'entre nous approfondira cette rencontre intérieure, cette expérience intérieure avec le Christ. Vous vous rappelez de cette sagesse toute prophétique de Gamaliel, telle qu'elle nous est rapportée dans les Actes des Apôtres devant le Sanhédrin, qui voulait interdire aux apôtres de parler au nom de Jésus? Il leur dit, mais laissez-les faire. On a vu des hommes récemment parmi nous se lever, rassembler des centaines de disciples, faire sécession avec la synagogue. Quand ils sont morts, les disciples se sont dispersés. Si cela vient des hommes, ça s'effondrera. Mais si ça vient de Dieu, ne risquez pas de vous mettre en guerre contre Dieu. C'est parce que Jésus est vivant. C'est parce que Jésus est vivant que ses disciples ne peuvent pas se disperser et qu'à 2000 ans de distance, nous sommes toujours rassemblés en son nom. Sommes-nous rassemblés en son nom? Sommes-nous vraiment rassemblés dans l'Église au nom du Christ? Que Jean-Paul II et Benoît XVI à sa suite, dont les pontificats sont tellement unis, c'est une visée de la providence divine pour ceux qui lirent l'histoire à son vrai niveau d'histoire sainte. Nous sommes appelés à recentrer notre vie sur le Christ, faire cette expérience intime. C'est tout le sens du temps pascal et de la parole de Dieu qui nous a été partagée en ce troisième dimanche de Pâques. Les apôtres, vous allez me dire, ils avaient vu Jésus ressuscité, n'est-ce pas? Ils l'ont vu apparaître, ils ont été témoins, mais ils n'ont pas fait l'expérience intérieure de sa présence vivante avant la Pentecôte. La preuve, c'est qu'au jour de l'Ascension, quand Jésus disparaît de devant leurs yeux, qu'il leur dit qu'il ne les verra plus, mais qu'il leur promet qu'il sera présent au milieu d'eux jusqu'à la fin du monde, ils sont désemparés, démunis, ils se sentent orphelins et ils s'enferment au Cénacle, les portes bien verrouillées, par peur des Juifs. C'est lorsqu'ils auront reçu la puissance de l'Esprit Saint, cette force venue d'en haut, promise par le Christ, qu'ils feront de manière décisive l'expérience intérieure du Christ ressuscité, vivant, et qu'ils pourront en témoigner avec tant d'audace, tant de courage, jusqu'à braver les persécutions et mourir martyrs pour le nom du Christ. Les disciples d'Emmaüs, désillusionnés, déçus, découragés, ils avaient tellement mis leur espérance en Jésus, mais de manière trop humaine, de manière trop extérieure, peut-être trop mondaine. Et ce Jésus, au fait de sa gloire, qui se laisse arrêter, crucifié, mettre au tombeau, et cela fait déjà 3 jours que cela est arrivé, disent-ils à cet inconnu, qui n'est autre que Jésus, qui vient à leur rencontre, mais leurs yeux étaient aveuglés. Ça n'est pas avec les yeux de la chair qu'ils reconnaîtront Jésus ressuscité, mais avec les yeux de la foi, les yeux du cœur inondés par la lumière de l'Esprit Saint. Ils feront l'expérience intérieure du Christ vivant, ressuscité. Comment ? À travers la parole que Jésus commente abondamment en leur disant partout dans l'Écriture ce qui le concernait. Comme Pierre qui nous dit dans le psaume de David ce qui concerne Jésus, « Ma chair reposera dans la confiance, elle ne connaîtra pas la corruption. » C'est l'annonce de la résurrection, déjà dans ce psaume 16 que nous avons médité après la première lecture. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Et enfin, lorsqu'il rentrera dans la maison, qu'il refera le signe de la scène où il avait institué l'Eucharistie, c'est là que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils le reconnurent, mais lui-même disparut à leur regard. Qu'importe qu'il ne soit plus présent de manière visible et physique. Ils ont fait l'expérience de sa présence de ressuscité, et oubliant leur fatigue, les voilà qui repartent vers Jérusalem pour annoncer à leurs frères, « Nous l'avons vu et reconnu à la fraction du pain, le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. » Chers frères et sœurs, demandons nous aussi, comme Benoît XVI nous y invite, en nous montrant cette belle figure de Jean-Paul II, déclaré bienheureux, qui nous invite à tourner nos yeux vers le Christ, demandons d'approfondir cette rencontre intérieure avec le Christ ressuscité, principalement à travers l'Eucharistie dominicale dont il a tant parlé, Benoît XVI et Jean-Paul II. L'Eucharistie dominicale, c'est là, précisément là, que le Christ vivant ressuscité se manifeste dans la vie de l'Église et du monde, pour que nous puissions, nous aussi, à partir de cette communion intime avec lui, devenir les témoins courageux et audacieux de Jésus ressuscité et de le rendre visible aux yeux du monde qui attend la rédemption. Amen.